Eh ben, on peut commencer en disant
bonsoir.
Bonsoir. Du coup, on a deux invités avec nous.
Tu peux pas commencer par du coup, pardon, excuse-moi, il faut que j'arrête de faire ça. Il faut qu'on soit dans l'ambiance directe.
Eh ben, on est au studio de Radio Canu avec deux invités qui sont là. Est-ce que vous êtes chaud pour vous présenter, dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là finalement?
Bonjour, je suis Cosmine, je suis un chercheur postdoctoral, je fais une recherche sur les livreurs. Et je suis aussi avec un ami ici. On a passé pas mal de temps ensemble en Roumanie il y a un an, avec des collectivités anarchistes.
Salut, je m'appelle Adrien, je viens de Cluj et je suis membre dans plusieurs collectifs. Un des collectifs qui, à mon avis, est plus important, donc fait un boulot assez actuel, de mon point de vue, c'est un collectif qui documente l'histoire anarchiste en Roumanie et qui a commencé de faire cette documentation il y a 3 ans. Et puis d'un petit collectif éditorial anarchiste aussi, qui s'appelle Pagine Libere.
Et on va pouvoir parler de tout ça ce soir parce qu'on vous a invité en fait pour parler de l'anarchisme en Roumanie, de l'anarchisme aussi peut-être un peu dans les Balkans, ensemble. Et du coup, pour commencer, nous ici on est en France, on est à l'ouest de l'Europe, toute la période notamment soviétique, on ne l'a pas connue. Avant 1989, en Roumanie, il y avait Ceausescu. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'était quoi la situation de l'époque et comment ça se passe quand Ceausescu part et qu'est-ce que ça produit finalement en termes de contexte politique qui pourrait peut-être différencier par rapport à ce qu'on connaît ici?
Donc si on regarde du point de vue de l'anarchisme classique en Roumanie, tout finit en 1947. C'est l'année où le Parti communiste prend le pouvoir, appuyé par l'armée soviétique bien sûr. Et donc, c'est le commencement de la période qui va finir en 89, oui. Et donc, il n'y a plus d'anarchistes en Roumanie à ce moment-là. Soit ils s'enfuient, soit ils essaient de ne pas être très visibles. Donc, et après ça, il y a aussi une certaine... question qui se passe avec la mémoire de l'anarchisme. Et donc les historiens de l'époque essaient de coopter cette histoire dans l'histoire du Parti communiste en regardant les militants, les figures les plus connues, comme des précurseurs du Parti communiste. Donc en essayant d'une certaine façon d'effacer cette mémoire en la cooptant ou en la réprimant. Donc... Il n'y a plus de mémoire de l'anarchisme en 89. On peut dire, par exemple, Nicolas Trifon, qui est venu en France en 1977, il se politise en France. Il est anarchiste, il se politise en France. Il est un des opposants du régime communiste, mais un opposant de gauche, ce qui est assez, assez bizarre pour l'époque en Roumanie. Tous les opposants se disaient soit de droite, soit ils réclamaient une certaine politique plutôt pro-occidentale. Donc c'est ce mix, cette coupure qui se passe pendant les années du communisme d'État ou soi-disant communiste, régime communiste.
D'accord. Et donc, il y a une grosse répression à l'époque. Tu dis que ça disparaît finalement parce que les personnes soit se cachent, soit disparaissent. En tout cas, il n'y a plus d'apparence. Et est-ce que ça revient? Comment ça revient finalement? Est-ce que 89, ça s'arrête? J'imagine que ça a eu un certain nombre d'incidences, notamment sur le climat politique en dehors de la question anarchiste, mais globale du pays. Comment finalement ça revient un peu ces questions-là?
Donc, après 89... ce qui arrive, c'est effectivement un renouveau libertaire, on pourrait le dire, mais par l'intermédiaire de la scène punk et de la scène underground. Donc ce n'est pas forcément une question très politisée au début, c'est plutôt une sorte d'anarchisme instinctif qui se développe au fur et à mesure après. cet esprit réfractaire du punk est à l'origine de la redécouverte des idées anarchistes en Roumanie après 89. Au début, les manifestes qui sont publiés à l'époque, c'est intéressant de les voir. Par exemple, c'est un manifeste publié en 94, j'ai l'impression, et tous les manifestes commencent avec la formule « Nous sommes contre ». Et c'est intéressant car c'est un témoignage, d'une part, contre l'horreur du communisme d'État, donc cette idée de ne plus avoir ce type de répression et ce type de régime, mais en même temps le rejet du nouveau monde qui, d'une manière très bizarre, ressemble très bien à l'ancienne. Donc c'est ce positionnement un peu bizarre, un peu difficile que les punks développent et qui se développe après dans une idée anarchiste plus articulée.
Ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Adrien, parce que c'est un sort de regard de l'extérieur. Mais je voudrais savoir pour toi, parce que pour moi, d'une manière personnelle, côté personnel, ça reflète ce que tu dis, en fait, parce que moi, je me suis, disons, politisé très, très tard. Et je pense que pour toi, peut-être c'était un peu différent. On est collègues depuis longtemps au lycée, on a fait le lycée ensemble. Et je me rappelle que tu écoutais du hard rock, du punk peut-être. Et moi, je n'étais pas introduite à ce genre de choses. Et pour moi, même connaître la scène anarchiste en Roumanie, ça s'est passé vraiment, vraiment tard. Et en fait, c'est grâce à vous, à Cluj-Napoca, que j'ai commencé à me rendre compte, voilà, il y a en fait une legacy.
Une
tradition anarchiste qui existe, il y a une scène anarchiste qui existe en Roumanie, à Cluj, et ça c'est peut-être il y a 10 ans, pas plus en fait.
Et peut-être pour qu'on puisse mieux comprendre, moi par exemple je suis hyper naze en géographie et Cluj je suis pas capable de le situer dans la Roumanie, et par ailleurs je me rends pas compte si c'est une mégalopole ou un petit village. Enfin, du coup, est-ce que c'est possible de dire un peu qu'est-ce que c'est Cluj comme ville et où c'est en Roumanie, comme ça pour les gens moins cultivés ça marchera.
C'était
aussi,
c'était la ville où on a fait des études supérieures, la faculté, donc c'est la plus grande ville de Transylvanie. Et moi, quand j'étais parti 10 ans pour des études à l'étranger, donc je suis parti 2023, ça fait 10 ans, elle a beaucoup, beaucoup changé en même temps. Donc c'est un pôle économique, c'est un pôle universitaire aussi. Et tu peux dire plus peut-être, Adrien, parce que c'est ta ville, quoi.
Mais quant à la géographie, je me rends compte que je n'ai pas spécifié une chose qui est, à mon avis, très importante. Concernant le renouveau libertaire après 89, c'est dans les villes de Timișoara et Craiova, qui sont deux villes universitaires et assez grandes aussi, situées à l'ouest de la Roumanie, donc très proche de la frontière serbe et hongroise, que les premiers groupes punk et anarcho-punk sont apparus. Donc c'était là que la scène existait, c'était là que les groupes existaient pendant les années 2000 et 90, pas à Bucarest, pas dans la capitale. Il y a eu aussi des groupes à Bucarest, mais la plus importante scène, c'était à Timișoara et à Craiova. Et maintenant, les groupes, d'une certaine façon, sont plutôt concentrés dans la région de Cluj. Mais pour te répondre à ta question, je peux dire qu'il y a une sorte d'évolution qui se passe pendant ces années. Donc, cet anarchisme instinctif dont je parlais est plus en plus intégré dans une prise de conscience à proprement parler politique, engagée, militante. Et donc, l'évolution est surtout visible vers la fin des années 90, quand il y a beaucoup d'actions de bouffe, pas des bombes. Il y a beaucoup d'actions antimilitaristes qui se passent. C'est la période des conflits en Yougoslavie, mais aussi une période où il y a une sorte de pression sur la société roumaine de s'intégrer dans l'OTAN, dans les structures atlantiques. Et donc, la plupart de la société est favorable à ce développement. Quand même, les anarchistes en général regarde avec beaucoup de suspicion, de scepticisme, ce type de militarisation de la société. Et c'est ce type d'actions qui sont les plus importantes, à part les concerts et une scène contre-culturelle, d'une certaine façon, qui émerge.
D'accord, et dans cette évolution-là, est-ce que les relations communistes, elles ont évolué ? Que sont devenus les communistes un peu en Roumanie ? Est-ce qu'il en reste encore ? Est-ce que c'est juste des vieux staliniens nostalgiques parce que, en fait, je pose cette question puisque ici en France, les anarchistes sont des sacrés différents avec les communistes, mais ça n'empêche pas des actions communes parfois, des manifestations communes, etc.
Cela dépend. Du point de vue du pouvoir et de l'État roumain, à mon avis, après le moment, il y a eu un moment révolutionnaire vraiment, quand les gens étaient vraiment, on avait eu assez du régime. Mais après, c'est les mêmes gens qui sont restés au pouvoir. Et du jour au lendemain, les plus acharnés communistes, les plus acharnés socialistes sont devenus les professeurs de capitalisme en Roumanie. Donc, c'est cette conversion du jour au lendemain. Les vieux propagandistes communistes, les membres de la sécurité de l'État, qui étaient très craignés, les membres des réseaux politiques communistes sont tous devenus effectivement les nouveaux capitalistes et les nouveaux politiciens démocrates, plus ou moins. Donc, plus ça change, plus ça reste la même chose.
Les choses ne changent pas trop de ce point de vue. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait toujours une scène anarcho-punk qui existait. Par ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, en fait, c'est quoi être anarchiste aujourd'hui, finalement, en Roumanie, en termes de militantisme, en termes de vie sociale et de milieu, qu'est-ce qu'on peut trouver comme action qui existe, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ?
En général, il y a eu une évolution pendant les années 2000, donc après ce renouveau libertaire qui a été d'une certaine façon coupé en 2008, après une démonstration contre le militarisme qui a été réprimée par l'État. C'est une année où il y a un grand congrès de l'OTAN qui se passe à Bucarest. Et après ce congrès, le mouvement, d'une certaine façon, passe dans l'underground de nouveau parce que la répression de l'État est assez forte. Après les années 2008, donc pendant les années 2012-2013, il y a les mouvements d'occupation des universités à Bucarest, à Cluj, et aussi les mouvements écologistes où... qui sont reliés à la cause de Rocha Montana. Et donc, c'est un nouveau berceau pour des énergies anarchistes anti-autoritaires. On crie dans les rues, par exemple, tous les partis sont la même ordure. Et donc, il y a ce renouveau qui se passe pendant ces années-là. Et le mouvement qui existe maintenant, c'est l'héritier des gens qui se sont politisés pendant les mouvements de rue, les occupations de 2012-2013, et aussi c'était des mouvements contre l'austérité et tout. Et en ce moment, il y a des petits espaces autogérés qui fonctionnent depuis 10 ans. Donc, à mon avis, pour un mouvement qui est assez petit, toujours, cette continuité est vraiment remarquable. Donc, en fait, cette année, 10 ans de l'espace qui est à Cluj, qui a aussi une bibliothèque, un espace pour les événements et tout ça, aussi une coopérative, une maison d'édition, une archive et tout ça. Donc, c'est à Cluj, mais aussi à Bucarest, il y a quelques petits groupes qui s'organisent autour des espaces. C'est très important. C'est un des outils que les anarchistes ont essayé d'utiliser pour avoir ce type de continuité. Aussi à Timișoara, il y a un petit espace organisé par des principes plutôt anti-autoritaires. L'enjeu pour en général pour les anarchistes en ce moment, et je parle aussi pour moi-même, c'est pas forcément à répandre l'anarchisme ou de faire que la société devienne anarchiste demain. C'est plutôt de populariser et d'infecter, si vous souhaitez, la société avec des pratiques et des principes de l'entraide, de la solidarité et tout ça. Parce qu'après 89, toute l'idéologie et toute la pratique sociale et politique a été une pratique individualiste, libérale. On nous a bourré le cerveau avec des idées de compétition et de ce type de choses qui, enfin, à la fin, ne nous conviennent pas. On essaie de populariser une autre manière d'être ensemble, à la fin.
Donc ça, on comprend que c'est cette manière d'être ensemble différemment et ces solidarités qui se dressent et d'entraide, etc., c'est des choses qui se passent autour d'un certain nombre de lieux.
Ouais.
Est-ce que c'est en capacité aujourd'hui, tu disais c'est un petit mouvement, est-ce que c'est en capacité de s'ouvrir vers l'extérieur, d'aller vers l'espace public aussi pour y, un moment, effectivement, même si c'est pas... c'est très bien d'ailleurs de mettre en place des pratiques, c'est la propagande par le fest, fait finalement. Est-ce que ça fonctionne, ça?
Oui, il y a quelques thèmes qui ont été... qui ont défini, à mon avis, l'engagement politique et social des anarchistes ce dernier temps en Roumanie. Un des thèmes, c'est le féminisme. Dans une société patriarcale et effectivement très, très conservatrice, dominé par l'Église orthodoxe et par un État qui est toujours rigide. Par exemple, le thème du féminisme, aussi le thème des droits des personnes queer, qui est toujours très présent. Il y a aussi des actions de la bouffe pas des bombes, des choses comme ça, mais aussi des actions ponctuelles en aide des migrants qui viennent de l'Orient et qui passent par la Roumanie et qui ont une situation assez affreuse mais pas connue par le public car vraiment la répression aussi policière contre eux elle est assez grande et donc les gens ont essayé de s'impliquer aussi dans ce type d'entraide.
D'accord. Et tu parlais de la répression aussi comme quelque chose de marquant. Donc c'est ce qui fait disparaître l'anarchisme. On le comprend en 47. C'est ce qui rend compliqué les choses. Comme tu le disais au début des années 2000, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de répression?
Je ne pourrais pas dire qu'il y a beaucoup de répression. Il y a parfois le mouvement en ce moment n'est pas forcément réprimé, mais surtout pendant les années 2000, il y a eu beaucoup de pression. Donc il y a eu des gens qui ont été pressés, des gens qui ont subi des pressions assez grandes à cause de leur engagement politique. Et donc, parfois, ils ont dû s'enfuir vers d'autres pays. Et donc, j'oserais pas dire qu'il y a eu une répression très forte, mais il y a toujours cette idée que l'État peut toujours intervenir et faire des choses pas jolies.
Parce que du coup, quand tu parles de pression, je me dis si les gens ont quand même dû changer de pays, c'est qu'a priori, on est sur un terme de pression que peut-être nous, on appelle répression finalement. Et sur le truc entre les deux termes, mais je me dis comment ça se traduit concrètement? Est-ce que c'est... là, en France, on parle beaucoup de surveillance en ce moment. C'est un peu il y a beaucoup de gens qui sont surveillés de très, très près. Ça peut être des procès. Ça peut être aussi la répression policière plus directe qui vient taper dans le tas. Comment ça se décline?
C'est intéressant car les méthodes de l'État démocratique après 89 ou de la structure policière sont les mêmes que les méthodes d'avant.
99.
Donc, 99. Oui. Les méthodes d'avant, donc c'est pas forcément, surtout pendant la période de Ceausescu, c'était pas forcément des gens qui étaient enlevés de chez eux et envoyés dans le goulag. Non. C'était les gens qui étaient licenciés, qui étaient, par exemple, exmatriculés de l'université, de l'école. C'était des pressions faites sur les parents. C'était toutes sortes de petites pressions, des lettres de menaces anonymes. Et parfois, après 89, ce qui s'est passé, il y a aussi des campagnes de presse qui ont été menées contre, par exemple, des menaces imaginaires, les anarchistes, qui viennent tout casser, qui vont, je ne sais pas, menacer notre belle société. Et c'était toujours, à mon avis, la main de l'État répressif. Donc, il y avait, Nicolas Trifon m'a dit qu'avant 89, quand la presse arrivait, il rigolait, il disait, c'est la police qui est venue. C'était toujours comme ça. Et d'une certaine façon, ça fonctionne aussi après et pendant les années 2000. Donc il y a ce type de pression qui est diffuse, pas très concentrée, mais qui arrive parfois à disloquer.
Et qui finalement, avec le temps, va finir par couper les envies ou couper l'énergie des personnes et des groupes du coup, qui sont composés de ces personnes.
Nous, on a un peu une expression qui ressemble à celle de Nicolas Trifon, c'est qu'on parle de journalisme de préfecture pour qualifier quand les journalistes reprennent, on va dire souvent, les communiqués de presse à la véracité inaboutie de la police. Mais on n'est pas sur Radio Canu dans une presse de préfecture. Et de fait, on voulait aborder une dernière chose dont tu as parlé dans l'actualité, on va dire, de l'anarchisme en Roumanie, qui est cette pratique de l'édition de textes. Et tu dis, bon, tu fais partie d'un collectif éditorial. Comment ça se matérialise? Qu'est-ce que vous éditez, en fait? Est-ce que c'est des textes inédits? Est-ce que c'est des textes produits en Roumanie, traduits? Peut-être sur quel thème aussi sont-ils?
Nous avons commencé le collectif en 2017, justement parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. D'une certaine façon, c'est justement ces racines, c'est cette conscience d'une tradition à laquelle on peut se rapporter, plus ou moins. Et donc, on a commencé à fouiller et nous avons découvert que le mouvement anarchiste classique, avant, donc 1947, n'était pas négligeable. Bien sûr, ce n'était pas au niveau de la France ou de l'Espagne ou même de la Bulgarie, mais il y a eu beaucoup de figures, beaucoup de publications, beaucoup de traductions qui ont été faites, beaucoup de groupes qui se sont organisés. Et donc, nous avons pensé que là, c'est une question qui doit être connue et reconnue et que nous pouvons bosser à ce but. Et nous avons, par exemple, republié une utopie anarchiste écrite en 1921, par Iulianu Negulescu, qui était un militant syndicaliste plutôt, mais qui est la seule utopie anarchiste écrite en Roumanie. Et donc, nous avons publié cette utopie, et c'était notre premier bouquin pour commencer ce travail de recouvrement d'une mémoire, qui est d'une certaine façon, comme Michel Ragon le disait, une mémoire des vaincus, des oubliés. Et donc, nous avons commencé avec cela, et puis au fur et à mesure, nous avons républié quelques traductions de Bakounine, de Thoreau, mais en ce moment, le collectif a évolué, bien sûr, et donc il y a beaucoup de littérature actuelle qui est publiée pour les lecteurs roumains, donc en roumain. De Murray Bookchin jusqu'au féminisme actuel, ou anarcha-féminisme, ou des choses comme ça. Donc, c'est déjà une plage assez large de sujets qui sont publiés. L'autre projet, c'est un projet d'archives, comme je vous ai dit, et qui est lié à ce moment inaugural nous avons voulu récupérer et maintenant mettre en ligne et mettre à disposition des gens les documents, les revues que nous avons découverts et scannés et tout.
Ce que je vous voudrais dire, en fait, par rapport à Pagine Libre, à la maison d'édition, ce que j'aime surtout, ce que vous faites, toi et Christiane, c'est aussi publier beaucoup de brochures. Et lui, il me disait à un certain moment, il faut publier tout le temps parce qu'on est en retard. C'est ça ce qu'il disait. Donc, comment est-ce que vous négociez ce genre de sentiment qu'il y a pas beaucoup de choses qui sont déjà là-bas et que vous essayez d'adresser toutes ces questions d'une partie de récupérer ce que tu avais déjà dit, mais aussi être à jour, si tu veux.
On n'essaie pas à faire tout. C'est déjà trop ce que nous faisons. Nous avons toujours l'espoir que notre travail, par exemple, va inspirer d'autres gens à prendre ce type de travail sur eux et de traduire et d'écrire et de publier les choses qui les intéressent. Et on fait aussi... des collaborations avec d'autres groupes qui veulent publier leurs essais, et poésie, n'importe quel type de texte. Et donc, nous essayons comme ça d'encourager l'émergence d'une petite sphère de discours anti-autoritaire, libertaire.
C'est vrai que je trouve que c'est vachement intéressant ce que tu dis sur le sentiment d'être en retard, de comment, s'il n'y a pas d'archives, s'il n'y a pas... Enfin, là, la disparition de la mémoire aussi, quand même, pour pouvoir penser, c'est quand même toujours pas mal de se référer à l'avant. Et effectivement, on imagine dans un... Bah, là, s'il n'y a plus d'archives, en tout cas, que ça a été complètement stoppé, ce travail d'aller les rechercher, de les documenter, de les référencer, de les rendre accessibles, c'est un boulot qui, à la fois, est dans le passé, enfin, remet le passé, en tout cas, dans le présent, mais essentiel, justement, pour pouvoir penser maintenant et pour pouvoir penser à avant. Et effectivement, j'imagine ce sentiment d'être tout le temps en retard, d'avoir tellement d'archives qui ont disparu ou, en tout cas, qui n'ont jamais été vraiment documentées ou indexées, que ça doit être à la fois un travail de fou, à la fois ça doit être sympa, mais ça doit effectivement mettre une espèce de gouffre derrière soi d'un passé un peu vide, finalement, qu'il faut remplir.
Tout à fait. Et c'est pour moi, par exemple, ce type de travail n'est pas un travail qui parle forcément et a priori du passé. Lui, il parle des possibilités du présent. Car en Roumanie, nous avons une fausse dichotomie que nous regardons en face. C'est la dichotomie entre le communisme d'État et le capitalisme de rapine d'après les années 89. Donc là, c'est une fausse dichotomie. Il faut aller rechercher les sources d'un autre type de solidarité, d'un autre type de pensée qui n'est pas la pensée de l'appareil d'un État répressif qui se dit socialiste ou communiste ou n'importe quoi, mais qui est vraiment une pensée actuelle, car c'est de cela que nous avons effectivement besoin en ce moment, comme société et en général comme société humaine.
Alors, chers auditeurs, chers auditeurs de Radio Canu, vous n'avez pas l'habitude de nous entendre aussi aquatiques, donc si on entend un petit peu d'eau, c'est tout simplement parce que cette émission est enregistrée un tout petit peu à l'avance, la veille en fait, nous sommes jeudi, et on est à l'arrière de Radio Canu et on donne directement sur les gouttières. Il nous reste que quelques minutes pour discuter ensemble, et on va reparler un peu de cette question de l'édition, mais du coup on va faire ça avec une question de solidarité internationale. Et avant de revenir à la question de l'édition pour terminer, pour ceux qui sont celles et ceux qui sont un petit peu moins nuls en géographie, la Roumanie a une frontière commune avec l'Ukraine, où on sait qu'il y a la guerre actuellement, et on se posait un peu la question, est-ce qu'il y a de la solidarité qui s'organise, en particulier sur les milieux anarchistes, et quelles sont un peu les positions qui sont partagées à ce sujet ?
Bon, le sujet est un peu compliqué, car les gens ne partagent pas la même opinion de ce qui se passe en ce moment là-bas, mais il y a eu un point commun en général de ce que j'ai vu en Roumanie quand l'invasion russe a commencé. Et ce point commun a été de laisser de côté pour l'instant les discussions géopolitiques, les grandes divagations théoriques. Cela a bien sa place, il faut réfléchir à ce qui se passe, bien sûr, mais l'urgence était de venir en solidarité avec les gens qui étaient affectés en premier lieu et puis d'essayer d'écouter nos compagnons et de vraiment les comprendre, comprendre leur position. Et donc, il y a eu des actions de solidarité avec la Anarchist Black Cross Belarus, par exemple, avec l'Anarchist Black Cross russe et aussi l'opération Solidarité en Ukraine qui avait organisé au début le soutien humanitaire plutôt vers la population et les gens qui fuyaient la guerre. Et donc la position en général, c'est nous ne soutenons pas la guerre, Nous ne soutenons pas le nationalisme, nous ne soutenons pas un bloc ou un autre militaire, mais il faut soutenir les gens qui souffrent, les gens qui résistent à la guerre et les gens qui essaient de s'échapper.
On va du coup finir sur une question de solidarité internationale et de géographie aussi, mais cette fois un peu plus heureuse, puisque la Roumanie fait partie des Balkans, et dans ce cadre-là, il y a un réseau balkanique, et ce réseau balkanique, je crois, organise un festival de littérature, ou en tout cas d'édition, cet été, était notamment en France pour venir en parler demain soir à la librairie La Griffe dans le 7e arrondissement à 19h. Donc, non, ce soir.
Du coup, ce soir. Parce voilà. Qu'on est jeudi, coup, soir, vous êtes vendredi, tout ça.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce réseau balkanique et puis du festival de cet été?
Oui. Donc, le réseau balkanique, c'est un réseau informel, c'est pas une question très formalisée, donc c'est plutôt un réseau qui s'est organisé autour de la foire du livre anarchiste des Balkans, qui a commencé en 2003 et qui a ses origines toujours dans l'ex-Yougoslavie, donc dans l'atmosphère des guerres, de la militarisation et du nationalisme. C'est pour cela que la devise de la foire de cette année, c'est justement il faut dépasser par-dessus le nationalisme et la guerre. C'était le nom d'une revue sortie par les anarchistes croates et serbes pendant la guerre de Yougoslavie. Et donc, cette année, la foire se passe à Ljubljana. L'année passée, la foire a été organisée à Cluj, donc en Roumanie, pour la première fois. Et donc, j'invite tout le monde à nous joindre là-bas. Il y a beaucoup de groupes qui sont annoncés. Vous pouvez voir le programme, les groupes qui viennent, les discussions même qui sont très intéressantes sur le site internet des organisateurs de Ljubljana. Donc, si vous tapez BAB 2023 Ljubljana, vous allez trouver le site et avoir toutes ces infos.
Et c'est très bête parce que toi, tu parles, et Cosmine, vous parlez parfaitement français, mais c'est quoi les langues pratiquées, puisque toutes les personnes des Balkans ne parlent pas les mêmes langues?
Oui, ça dépend. En général, on parle en anglais, c'est la lingua franca maintenant pour tout le monde, mais les gens des Balkans, en général, sont bilingues ou trilingues. Donc, il y a des gens qui parlent bulgare ou des gens qui parlent une autre langue, et on peut s'entretenir comme ça. Moi, je parle seulement l'anglais, le français, le roumain, un peu d'italien, mais...
Seulement.
C'est bon. C'est on peut s'en sortir.
Les trois quarts de la population
il y a toujours cette blague avec le type spécial d'anglais que nous parlons, c'est Balkan English. Donc, tu vas le reconnaître si tu l'entends tout de suite.
D'accord. Et ben c'était Balkan Radio ce soir sur Radio Canu. Merci beaucoup d'être venu.
Merci pour l'invitation.
Et puis écoutez, à très bientôt et on se retrouve cet été à Ljubljana.
Merci.
Salut.